Alors, on va commencer tout de suite, Nathalie, avec notre premier sujet. J'ai un petit peu massacré son nom, c'est Rémi Massador. Bonjour, M. Massador.
Bonjour.
Bon, vous allez bien?
Oui, très bien. Merci
bon, alors, c'est ça, vous êtes venu vous établir au Québec et finalement, de fil en aiguille, ben, vous avez eu de beaux projets en tête. Vous êtes vraiment quelqu'un de très créatif. Vous êtes un ébéniste, mais vous avez quand même d'autres formations, je pense, hein?
Oui, à l'origine, en France, vous l'entendez à mon accent, je suis français.
Oui, c'est ça, exactement.
J'étais architecte d'intérieur en France, puis j'ai fait beaucoup d'enseignements dans ce domaine-là. Donc, quand je suis arrivé au Québec, j'ai désiré reprendre mes études et j'ai tout de suite investi dans le domaine de l'ébénisterie parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis des années.
C'est ça, parce que vous souhaitez faire des meubles, mais comme vous l'entendez, c'est-à-dire que vous partez du principe du Lego.
Ah oui, je vois que vous avez lu un article concernant. Effectivement, j'ai créé une gamme de meubles il y a maintenant quelques années. Cette gamme de meubles, elle est personnalisable et les gens peuvent l'accommoder un petit peu comme ils le souhaitent pour obtenir un meuble qui, au final, est unique. Mais à la base, la création du meuble vient de la création de plusieurs éléments qui se combinent un petit peu à l'image des Lego. C'est-à-dire que quand vous achetez des Lego, ben, une brique peut servir à la fois dans un camion de pompier comme dans une fusée.
c'est
la même chose pour les meubles que j'avais créés à cette époque-là.
C'est ça. Donc, vous jumelez ébénisterie et design d'intérieur
pour créer ces
meubles-là, sur mesure.
À la base, moi, je suis designer. En France, c'était mon travail. En France, on dit architecte d'intérieur pour tout ce qui est rénovation.
Mm-hmm.
Mais ici, je m'oriente vraiment sur le design de mobilier puis la création de mobilier sur mesure pour mes clients. J'ai cette gamme de mobilier dont vous parlez. Mais je vous dirais que 60% de mon travail en tant qu'ébéniste, c'est du dessin sur mesure de mobilier.
C'est ça, parce qu'en fait, dans vos meubles, c'est-à-dire, c'est ça, comme vous dites, un peu comme les Lego avec le principe des couleurs, il y a beaucoup d'éléments communs qui peuvent être utilisés. Alors, ça peut être modifiable selon les besoins du client.
C'est ça, exactement.
Alors, puis à la fois, vous vous êtes intéressé un petit peu par le côté vintage, là. Enfin, c'est-à-dire, évidemment, vous vous inspirez en même temps de meubles inspirés par l'Europe, quoi.
Oui, effectivement. En fait, c'est sûr qu'en Europe, au niveau, j'allais dire, décoration, on a des goûts un petit peu différents qu'au Québec. Donc, il y a des choses que j'ai pu ramener avec moi dans ma valise, on va dire. Notamment, il y a pas mal de meubles que je dessine ou que je fabrique actuellement qui ont plus des origines ou plus des intentions de design dans le style scandinave, par exemple.
C'est ça. Les années 60 aussi, hein, oui, ça vous inspire beaucoup.
Peu,
ah, ben ça, je vous comprends. Moi aussi, ça m'inspire énormément. Mais alors, c'est ça. Donc, alors, vous avez cet aspect-là de votre travail. Mais en fait, vous êtes, comme on l'a dit dans notre présentation, vous êtes papa d'un enfant porteur de la trisomie 21. D'ailleurs, là, vous allez m'éclairer, c'est-à-dire vous êtes bien placé pour me dire comment doit-on dire les choses. Est-ce que je dis bien les choses, porteur de la trisomie 21?
Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce terme-là. C'est un enfant en situation de handicap. Il a, effectivement, il est porteur de la trisomie 21, un petit chromosome supplémentaire, comme on dit.
Exact.
Mon fils a une trisomie ce qu'on appelle en mosaïque, qui est un style un petit peu particulier, qui ne touche pas l'entièreté de ses cellules, mais c'est une spécificité vraiment rare, puisque je pense que mondialement, il y a peut-être 5% des trisomiques qui ont cette particularité-là, donc c'est un peu spécial.
D'accord. Alors, évidemment, il y a des traits distinctifs hein, pour les enfants trisomiques. Maintenant, là, c'est qu'en fait, ça vous a inspiré. Vous vous êtes dit, bon, mon fils, quel avenir a-t-il? J'imagine que c'est un petit peu la réflexion que vous vous êtes fait. Et là, vous avez décidé de dire, ben, pourquoi pas ces gens-là, d'ailleurs, ont besoin de, à l'âge adulte, de travailler. Et puis, beaucoup sont aptes à travailler. La question n'est pas là.
Oui.
Mais là, vous avez décidé, vous, de donner des ateliers d'ébénisterie aux jeunes, en fait, et vous avez parti les petits artisans.
Oui, alors c'est un concept un peu spécifique. C'est comme ça peut paraître un peu terrifiant parce qu'on se dit on va mettre des outils dans les mains des enfants parce qu'on parle bien d'enfants à partir de 6 ans. Hein, donc,
c'est ça, très jeune, entre 6 et 12 ans, hein, c'est ça.
C'est ça. Pour nos groupes adaptés, puisque je vais vous expliquer, mais on a des groupes adaptés pour les enfants en situation de handicap et des groupes pour les enfants neurotypiques, les enfants, j'allais dire, sans handicap. Pour nos groupes adaptés, on n'a plus de limite d'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de 12 ans. Par contre, pour les groupes réguliers, oui. Comment ça se passe nos ateliers? Mais en fait, comment est venue cette idée? Je vous dirais que c'est très simple. J'entendais beaucoup, en tant que parent d'enfants en situation de handicap, le fait qu'il manquait des activités pour les enfants. Puis, plutôt que de me dire bah, c'est un problème qu'il manque des activités, mais je me suis dit s'il manque des activités, c'est qu'il manque de personnes pour créer ce genre d'activités. Donc, j'ai pris du recul, un petit pas de recul, puis je me suis dit, moi, qui ai fait de l'enseignement pendant des années et qui ai passionné d'ébénisterie, qu'est-ce que je pourrais faire pour transmettre cette passion, puis peut-être découvrir des vocations chez les enfants. Mm-hmm. Eh bien, je me suis lancé dans ce type d'atelier-là, et donc un atelier d'initiation à la menuiserie, à l'ébénisterie.
D'accord. Alors ça, c'est vraiment... Et puis, bon, alors évidemment, vous leur faites faire des projets très simples, sous supervision, et les parents aussi sont là, généralement.
Oui, en fait, les ateliers se font automatiquement avec les parents. C'est un atelier parents-enfants. Dans notre atelier, on ne peut accueillir que 6 enfants maximum, mmh, pour nos groupes réguliers, et 4 enfants pour nos groupes adaptés. À chaque fois, que ce soit régulier ou adapté, c'est toujours en présence des parents. Moi, en termes d'entrepreneuriat, je voulais créer une occasion, en fait, de faire une activité avec son enfant, parce qu'on a des vies d'adultes très occupées entre le travail et puis tous les soucis qu'on a autour de nous. Y a peut-être une possibilité, une heure par semaine, de s'offrir une heure d'atelier avec son enfant pour fabriquer quelque chose avec lequel on repart.
Ouais.
Puis, le point sur lequel je voudrais revenir, que vous avez dit dans votre question, c'est la chose que vous avez dit, c'est que on fabriquait des choses simples. Oui, mais je voudrais quand même apporter une nuance. C'est qu'il y a certains enfants là qui se rendent à faire des assemblages complexes, voire très complexes. Okay, des assemblages qui sont utilisés dans l'ébénisterie professionnelle de nos jours, comme dans l'ébénisterie traditionnelle, c'est-à-dire comme des queues d'aronde, des assemblages d'enchevêtrement complexes. Et bien, les enfants arrivent à faire ça, avec l'aide de leurs parents, bien sûr.
Quand même, hein? Et puis là, on parle d'enfants de 6 à 12 ans, évidemment, comme on dit, c'est toujours adapté selon l'âge, forcément.
Oui, oui.
Mais c'est ça, Nathalie, tu avais une
question? En fait, vous le disiez tantôt, ils travaillent avec des vrais outils, mais vous parlez d'outils d'ébénisterie ancestraux.
Ben, en fait, pourquoi est-ce que je précise ça sur mon site Internet? C'est tout simplement pour signifier aux gens qu'on va utiliser des outils manuels non électriques. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les outils originel de l'ébéniste, j'allais dire, c'est-à-dire le rabot, le ciseau, le marteau, bien sûr, la scie, mais tout ça, ce sont des outils à main, ancestraux, dans le sens où on n'utilise pas les nouvelles technologies et tous les outils électroniques qui peuvent exister maintenant, électroniques et électriques qui peuvent exister maintenant.
Okay. Et dans le cas des parents, bon, comment ça se passe, cette relation-là? Comment vous gérez la présence des parents? Bon, est-ce que les parents, ce sont naturellement des gens qui ont certaines habiletés, qui peuvent aussi aider les autres jeunes, parfois?
Non. En fait, moi, ce que je préfère même, c'est quand les parents n'ont aucune habilité.
Ah bon? Je serais une bonne candidate.
En fait, généralement, la plupart du temps, les gens n'ont aucune habilité, sont dans des domaines professionnels qui n'ont rien à voir. Ils viennent là pour découvrir, puis on part vraiment de la base. Il n'y a aucun prérequis, en fait. Comment est-ce que ça se passe, pour vous expliquer physiquement comment est-ce que ça se passe? Dans notre atelier, on a 7 établis, des vrais établis, mais ce sont des établis doubles, c'est-à-dire que sur chaque établi, on a une place pour le parent, une place pour l'enfant. D'accord? Il y a 6 adultes et 6 enfants. Et il y a un établi pour moi, exactement identique, où je fais toutes les démonstrations avant qu'on passe à la fabrication. Donc, le temps est un petit peu divisé, c'est-à-dire que je fais d'abord une démonstration avec les mêmes outils qu'eux, et ensuite ils passent avec leurs enfants sur leur propre établi, avec leurs propres outils, avec leurs propres morceaux de bois, à fabriquer leur propre création.
Mm-hmm. Ah, d'accord. OK. Alors, vraiment, donc, c'est vraiment très, très, enfin, à la fois, c'est interactif en même temps. Bon, et puis, les parents peuvent aussi continuer même à la maison.
Oui, s'ils le souhaitent. D'ailleurs, j'ai beaucoup de parents qui me demandent où se procurer les outils, ainsi de suite. Puis, je vous dirais même que, petite anecdote, là, à la période des fêtes de Noël, j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir où est-ce que le Père Noël pouvait se procurer les outils.
C'est bon. Je comprends. Alors, vous avez vous-même étudié en entrepreneuriat parce que vous avez quand même vos projets personnels à mener à bien aussi d'un autre côté. Et puis, bon, les petits artisans. Alors, comment fait-on pour s'inscrire?
Alors, déjà, notre atelier se trouve à Québec. Je sais que vous êtes plus à Montréal, mais notre atelier se trouve à Québec dans l'arrondissement de Beauport. Puis tout se fait directement sur notre plateforme, sur notre site internet en fait. Vous vous rendez sur www.lespetitsartisans.ca et à l'intérieur du site internet, on a une partie inscription. Là, au moment où je vous parle, on est en pleine dans la période des inscriptions du mois de septembre.
D'accord.
Pour vous donner un ordre d'idée, on existe depuis septembre dernier. En un an, on a accueilli environ une centaine d'enfants. En réalité, c'est un tout petit peu plus d'une centaine d'enfants.
Oh, quand même, hein.
Oui, ça a bien marché, surtout quand notre premier groupe, en septembre, on avait juste deux groupes, donc 12 enfants. Puis là, pour le mois de septembre prochain, j'ai ouvert la disponibilité à 48 enfants. Donc, ça vous donne
Oh, c'est merveilleux. Mm-hmm. Alors après ça, vous allez être victime de votre succès. Il va falloir agrandir vos ateliers.
Ben, peut-être prendre un employé ou une employée.
Monsieur Massador, je le répète, vous travaillez avec différents jeunes, dont certains porteurs de la trisomie 21, mais aussi avec des jeunes autistes.
Oui.
C'est ça.
Nos groupes adaptés...
Clientèle.
Oui, là, actuellement, on avait un groupe adapté à chaque cohorte, donc 4 élèves, soit avec une déficience intellectuelle, soit un trouble du spectre de l'autisme, soit des trisomies 21, on a eu trisomie 9 aussi, ouais. On a eu différents types d'enfants. À la rentrée prochaine, on ouvre un deuxième groupe pour les enfants en situation de handicap, donc on passera de 4 à 8. Ce qui est un nouveau challenge.
C'est ça. Enfin, on aura tous les détails, bien sûr, sur votre site. Écoutez, merci infiniment, M. Massador, d'être venu nous en parler. Et ces jeunes-là, bien sûr, ont un avenir. Et puis d'ailleurs, il y a justement une députée, Nathalie, qui...
Oui, mais en fait, Mme Mar Galceran, qui est devenue la première personne porteuse de la trisomie 21, mais qui a été élue à l'Assemblée régionale de Valence.
Oui, en Espagne.
Oui, en Espagne. Une femme politique. Pardon?
J'ai vu passer ça sur Internet.
C'est ça, donc une femme politique, mais qui s'est donnée comme mission claire de changer les mentalités à l'égard des personnes handicapées.
Voilà. Alors, ça veut dire que ces jeunes-là ont un avenir. Et d'ailleurs, c'est une excellente idée donc, que vous avez eue de les former, de les intéresser à notamment l'ébénisterie. Merci infiniment.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.